Ulysse, vous restez avec nous puisqu'on va parler d'une autre actualité, de la visite d'État de Xi Jinping, visite de deux jours avec dîner à l'Élysée. Au moment où on parle, on accueille aussi sur ce plateau Thomas Lafarge, co-réalisateur de l'enquête « La Chine fait-elle la police en France ?» du magazine Envoyé spécial chez nos confrères de France Télévisions. Bienvenue à vous. Merci. Sur ce plateau. Première visite donc du président chinois en France depuis la pandémie avec un objectif principal, c'est de renouer le dialogue entre Pékin et Bruxelles sur les questions commerciales principalement. Alors, osera-t-il aborder les questions qui fâchent sur les droits de l'homme, par exemple? On verra ça. On voit du beau monde ce soir, si on peut commenter les images.
On a vu Jean-Michel Jarre,
Jarre, Sophie Marceau,
Christophe
Mireille
Béchu,
Mathieu,
Raffarin,
Jean-Pierre Raffarin.
Du beau monde.
C'est People ce soir à l'Élysée.
Jean-Jacques Cano, le réalisateur. Mais il y avait le monde des affaires, les grands patrons. L'Oréal, LVMH, le patron du groupe CMA-CGM,
Sylvie Retailleau.
Il y avait tout le gouvernement, sauf Rachida Dati, que l'on n'a pas vu ce soir. Il y avait Gongli, la célèbre actrice.
Rachida Dati est au Molière.
Voilà, donc elle ne pouvait pas être...
Elle peut pas être partout.
Voilà, la présidente de l'Assemblée nationale.
Xavier Niel.
Le président du Paris Saint-Germain.
La culture.
Nasser El-Khelaifi.
Le business et aussi la science avec des scientifiques. Vous savez, l'une des choses dont les deux présidents ont discuté avec leurs équipes, c'est l'intelligence... L'intelligence artificielle, figurez-vous. Les Chinois veulent accélérer.
Monique et Jacques Lang.
Voilà. Un dîner d'État, ça passe effectivement par une liste d'invités prestigieux qui ont joué un rôle dans les relations franco-chinoises. N'oublions pas quand même que...
C'est toujours les mêmes. Les présidents de la République changent, mais ils envoient toujours les mêmes têtes.
Ça, c'est une nouvelle ministre des Sports et de l'Éducation nationale qu'on n'avait pas vu avant.
Je parle de l'UNESCO. Ah ben oui, les ministres changés, mais je parle des people.
Mireille Mathieu, très célèbre en Chine.
Elle est là.
Et en Chine aussi, hein.
Sophie Marceau, évidemment.
Qui est venue deux fois.
Voilà. Et voilà. Il y a eu les toasts. Et donc là, Jean-Michel Jarre avec Gongli.
Alors justement, le toast, on y vient. Emmanuel Macron qui a lancé un toast en l'honneur de Xi Jinping. On écoute le président Emmanuel Macron.
Ce soir, je veux ici que tous les convives réunis puissent célébrer cette amitié solide entre nos deux pays. Celle de la science, des arts, de la diplomatie, du commerce. Nous ne pouvons donc ce soir rêver meilleur convive que vous. Je veux donc lever mon verre en votre honneur, en celui du peuple chinois, et surtout, Monsieur le Président, Madame, pour un nouveau cycle de 60 ans d'amitié qui s'ouvre entre nos deux pays.
Les mots sont importants. Ils célèbrent l'amitié solide entre la France et la Chine. Est-ce que cette expression vous choque?
Non, elle est assez normale, étant donné que la France et la Chine ont une relation un peu spéciale. C'est un des tout premiers pays à reconnaître la Chine communiste. La France a une position assez particulière vis-à-vis de la Chine. Elle essaye d'être le plus indépendante possible de l'opinion américaine. Elle essaye d'avoir une voix un peu dissonante en Europe. Donc, c'est pas si étonnant qu'il essaye de rappeler ça à son homologue.
Ulysse Gosset.
Mais la Chine est un empire. C'est aussi une culture millénaire et la France aussi a une grande tradition dans le monde de la littérature. D'ailleurs, le président a offert trois livres de Victor Hugo. Il a offert également du cognac au président chinois.
Mais parce qu'il y a un problème de surtaxe du cognac français en Chine. Donc c'est important au niveau négociation.
C'est subliminal.
Oui. Un petit message.
Mais si vous voulez, c'est vrai que c'est difficile d'ignorer ce qu'est la Chine aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est à la fois un empire, mais c'est aussi et surtout maintenant la deuxième puissance de la planète. C'est une bonne partie du commerce mondial, c'est une puissance nucléaire. Et c'est une puissance qui a des liens absolument privilégiés avec la Russie. Donc, si on veut faire pression sur Poutine, Xi peut éventuellement jouer son rôle. Et ce soir, il a d'ailleurs dit qu'il était maintenant d'accord, pour ne pas vendre des armes à la Russie. Est-ce qu'il tiendra parole? Évidemment, il faudra vérifier. Et deux, pour faire respecter une trêve pendant les Jeux Olympiques de Paris. S'il y avait une trêve dans la guerre en Ukraine cet été, ça serait peut-être le résultat de ce dîner. Mais on ne peut pas non plus oublier que la Chine, c'est un régime dictatorial, un parti unique, des centaines de milliers de personnes qui sont des opposants politiques, qui sont dans le goulag chinois. C'est la répression contre les Ouïghours, les musulmans, avec des camps de rééducation vraiment qui sont inacceptables et inadmissibles, avec le Tibet, avec Hong Kong, etc. Donc c'est l'empire Xi Jinping, le nouveau Mao, le grand timonier moderne, qui dirige ce pays d'une main de fer. Mm-hmm. Et c'est lui qu'on reçoit parce qu'on se dit que si on se fâche avec lui aussi, avec qui on va parler.
Mais est-ce que je voulais vous faire réagir je voulais qu'on regarde ce qu'a dit Raphaël Glucksmann chez nos confrères de France Inter ce matin, qui lui n'est pas d'accord avec cette façon de faire. Il dit voilà, on peut discuter avec lui, mais cette méthode-là, lui dérouler le tapis rouge, on va un peu loin. On écoute la tête de liste du Parti socialiste aux européennes.
On peut le recevoir, on peut discuter avec tout le monde, mais pas de cette manière. Pas en l'amenant dans le village de vacances de l'enfance, dans la maison de l'aïeul. Pas en donnant, comme le dit l'Élysée, un cadre amical à cette visite. Parce que Xi Jinping n'est pas notre ami. En plus d'avoir déporté le peuple ouïghour, réprimé les Tibétains, les Hongkongais, réprimé les opposants, menacé les Taïwanais, Xi Jinping, c'est le principal soutien aujourd'hui de la guerre de Poutine en Ukraine. D'une guerre qui menace la sécurité des Européens.
Voilà, Charles Consigny, il dit on peut discuter avec lui, mais pas comme ça.
Non, moi je voudrais demander à Ulysse Gosset s'il est prévu que...
Vous répondez pas à ma question.
Président, non mais...
Non mais il s'en fout.
Non mais ma question...
comme Georges Marchais, vous venez avec vos questions.
Ma question répond à votre question.
Moi, je
souhaite savoir s'il est prévu qu'Emmanuel Macron aborde ces sujets de droits de l'homme, de camps d'internement des Ouïghours, etc., avec Xi Jinping, ou si c'est une pure... rencontre commerciale et destinée à se faire un allié ou au moins pas trop un ennemi par rapport à la guerre en Ukraine.
Alors la réponse est oui, la question des droits de l'homme est abordée pendant le séjour en France du président chinois, mais pas publiquement. Le président de la République a dit qu'il voulait le faire porte close dans l'intimité de leur relation.
Donc on ne saura pas.
Si, parce que il dit que c'est plus efficace pour permettre de résoudre des cas particuliers.
C'est comme le chat de Schrödinger, on ne sait pas s'il est dedans, peut-être qu'il n'est pas dedans.
Des journalistes emprisonnés, il y en a beaucoup, il y a 119 journalistes chinois qui sont en prison, RSF le rappelait aujourd'hui. Il y a des milliers d'intellectuels qui ne peuvent pas s'exprimer, il y a des gens qui ne peuvent pas voyager, il y a des gens qui sont au goulag chinois, il faut le répéter, et il y a la répression contre les Ouïghours. Alors, le problème, si vous voulez, c'est effectivement c'est un choix politique. Quand on reconnaît la Chine, on reconnaît l'Empire chinois, la Grande Chine, la Chine en tant qu'État, mais pas forcément le régime. C'est ce que disait toujours De Gaulle. Et c'est la même chose. Est-ce qu'on peut se passer d'une relation avec la Chine? Alors, est-ce que, quand on voit les critiques qui sont faites sur cette question des droits de l'homme, est-ce que ça veut dire qu'il faut tirer un trait sur tout le reste? Mon sentiment, c'est que dans le monde d'aujourd'hui, qui est un monde global où tout le monde discute avec tout le monde, où les réseaux sociaux existent, c'est impossible de ne pas parler à la Chine. Et les Chinois, ceux qui ont envie d'avoir une liberté d'expression, etc., ils ont besoin de cette relation. On a besoin d'avoir des échanges d'étudiants. Vous savez qu'il n'y a plus que 10% des étudiants français en Chine comparé à ce qu'il y avait avant le Covid. Vous savez qu'aux États-Unis, il n'y a pratiquement plus d'étudiants chinois parce que l'Amérique a fermé ses portes. Je veux dire, on est dans un monde où il y a un risque d'isolation et malheureusement, ça ne donne pas de bons résultats.
Et la Chine a besoin aussi pour ça. La Chine a besoin de bonnes relations avec la France et l'Europe.
Et elle a besoin de l'Europe. Ça, c'est le grand changement. Vous parlez des 60e. Ces grands changements, c'est que la Chine a besoin de l'Europe.
Exactement.
Et l'Europe doit lui répondre, mais en étant prudente et en imposant le respect des règles, notamment d'équité, de réciprocité dans le domaine commercial.
Mais ma question, c'est sur la méthode. Lui dérouler le tapis rouge. On parle demain d'une virée dans les Hautes-Pyrénées pour un déplacement un peu plus intime. C'est ça qui choque notamment Raphaël Glucksmann. Il n'a pas le choix, Emmanuel Macron?
Il a évidemment pas le choix parce qu'on peut pas faire abstraction d'un pays d'1,3 milliard d'individus et qui est la deuxième puissance mondiale. Donc il est évidemment obligé d'accepter les propositions. Je pense que cette invitation et ce rendez-vous n'a lieu que parce qu'il y a les 60 ans de la relation franco-chinoise. Il aurait très bien pu, toutes les discussions qu'ils ont eues, qu'ils vont avoir là à l'Élysée, auraient très très bien pu se passer par téléphone. Ils auraient très bien pu aller en Chine. Bon là, c'était un peu spécial. Mais je voudrais juste revenir sur l'idée que les États-Unis se coupent de la Chine, c'est vrai.
Il
y a de moins en moins d'étudiants, il y a de moins en moins de cadres aussi étrangers qui vont s'installer en Chine. Aller en Chine, ça ne fait plus du tout rêver les cadres des grandes entreprises. Mais il faut pas oublier une chose aussi, c'est que le discours qui va être tenu ici en France n'arrivera jamais aux oreilles de l'opinion publique chinoise. Le web chinois n'est pas le web que nous connaissons. Mmh. Il est complètement fermé, complètement fermé. Les informations qui arrivent jusqu'en Chine ne sont pas les mêmes que celles que nous avons.
Rappelez-nous d'ailleurs, quels réseaux sociaux ont-ils accès?
Le principal réseau social, il s'appelle WeChat. C'est un formidable outil qui réunit à la fois Instagram, Facebook, WhatsApp, Lydia, on peut y faire des virements instantanés d'argent. C'est extrêmement utile. C'est aussi un outil de contrôle total. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un individu a WeChat sur son téléphone,
il est surveillé.
Il est complètement possible d'être surveillé par le pouvoir chinois. Donc, il faut vraiment prendre conscience que le Xi Jinping qu'on accueille aujourd'hui en 2024 n'est plus le même que celui qui est venu à sa précédente visite, donc c'était il y a plus de 5 ans. C'est déjà plus le même régime. En l'espace de 5 ans, la Chine s'est refermée très violemment. Moi, j'étais en Chine en 2019, et en 2019, on a déjà constaté le raidissement du pouvoir chinois par rapport à 2012. Mais après 2019, c'était encore pire. Après le Covid, on peut vraiment parler d'un tournant encore plus autoritaire. Donc aujourd'hui, la Chine n'est plus du tout le pays qu'on avait l'habitude qu'on décrivait jusqu'il y a 3-4 ans. Ça a vraiment changé. Les entreprises n'ont plus envie de s'installer en Chine parce qu'elles savent qu'à tout moment, elles peuvent se faire saisir leur bureau. Il peut y avoir des interventions policières dans leur bureau. Et c'est déjà arrivé par le passé. Il y a des cadres qui se font arrêter. Il y a 2 cadres canadiens qui ont été arrêtés sans aucune raison. Juste parce qu'il y a des Chinois qui avaient été eux-mêmes arrêtés au Canada. Donc, vraiment, un échange d'otages qui a été organisé. Donc, voilà, c'est ça aujourd'hui la Chine de Xi Jinping.
Donc, si Xi Jinping vient, c'est aussi pour séduire d'une certaine manière à nouveau les Européens.
Une petite information que je vous livre. Xi Jinping voulait un dîner à Versailles. On lui a refusé. Donc, oui, on a mis les petits plats dans les grands à l'Élysée. Oui, il y a une visite un peu personnelle sur laquelle on peut discuter, mais la relation personnelle est quand même très importante entre les hommes d'État qui se retrouvent au G20, qui se retrouvent aux Nations Unies pour créer quelque chose. Et si ça fonctionne, tant mieux. Si ça ne marche pas, alors évidemment, Emmanuel Macron est bien placé pour savoir qu'il a souvent lancé des initiatives qui n'ont pas fonctionné, il s'est retrouvé bien tout
seul. Mais il faut une homothétie des relations. On ne peut pas recevoir le président chinois, soit on ne le reçoit pas, d'accord, mais si on le reçoit, la visite dans les Hautes-Pyrénées, elle est conditionnée par le fait que le président chinois, l'an dernier, a reçu Emmanuel Macron dans la maison de son père. Donc il faut, parce que les Chinois sont très pointilleux sur les questions diplomatiques et sur les questions d'étiquette, il faut pas qu'un voyage mal organisé se retourne contre la France. Donc il faut vraiment le parallélisme des formes doit être exactement respecté dans les 2 voyages officiels. Mais c'est pour ça qu'il y a ce dîner, ce déjeuner au Tourmalet.
Mais parler d'une amitié solide avec la Chine, lorsque la Chine, elle parle d'une amitié sans limite avec la Russie, ça c'est normal aussi. Les termes sont bien.
C'est-à-dire que oui, à partir du moment, quand on regarde à quel moment le général de Gaulle a renoué les relations diplomatiques avec la Chine, c'était autre chose. Hein. On sortait de des fleurs là qui avaient été destinées à monsieur en parlerait certainement beaucoup mieux que moi, qui étaient destinées finalement à identifier les intellectuels chinois, à les faire sortir du bois pour mieux les traquer et les torturer par la suite. On est en plein dans la révolution culturelle, la réforme agraire, etc. 20 millions de morts, faut relire Simon Leys parce que c'est le moment. Hein. Et il n'y a pas seulement que c'est chez Bernard Pivot qu'il faut se repasser cette histoire. Les habits neufs du président Mao, etc. Et le parapluie de Simon Leys, qui est un excellent livre pour bien comprendre son œuvre. Voilà. Et pourtant, dans ce contexte-là, il décide de renouer avec la Chine. Donc il faut arrêter le préchi-précha.
C'est la réelle politique, comme on dit. Hein.
Il y a la réelle politique. Ulysse a tout à fait raison, en fait, d'insister sur le fait qu'il faut des espaces, en fait, pour dialoguer. Il fut un temps où c'était à l'ONU. D'ailleurs, c'est toujours, dans une certaine mesure, à l'ONU où tout le monde peut dialoguer, y compris les États qu'on considère les plus pourris, les plus autoritaires, les plus dictatoriaux, etc. Et les plus criminels. Mais c'est important, en fait, qu'il y ait ces espaces de dialogue. Après, la question, c'est quoi dire? Parce que qu'est-ce qui se raconte? Quelle est la proposition, en fait, de la France et peut-être un peu plus largement de l'Europe? Qu'est-ce qu'on a à proposer à la Chine? Il faut rappeler, juste un tout petit peu de recul, en fait, la Chine, effectivement, se rétracte, se referme. Il y a un tournant autoritaire, mais la Chine, elle est aussi inscrite dans une direction qui est de contester la mondialisation telle qu'elle a été construite, finalement, autour et par les États-Unis d'Amérique. Et eux, ils disent, nous, on veut une autre mondialisation qui, pourquoi pas, sera tournée autour de nous. Et donc, depuis, mais ça date d'il y a plus de 5 ans, on va dire depuis la fin des années 2000, 2000, quand il y a eu la crise des subprimes, etc., et que ça a fait une grosse crise mondiale, à ce moment-là, ben, eux, ils avaient plein de choses à vendre à tout le monde. Et là, ils ont dit, bon, on va changer un peu notre politique et on va envahir tout le monde d'infrastructures. Et donc là, ils ont commencé à offrir, entre guillemets, des aéroports, des ports,
la route
de la soie. Ils ont construit tout plein d'infrastructures à travers le monde. Et c'est aujourd'hui... Pourquoi ? Pour contester le leadership américain dans la mondialisation actuelle.
Oui, mais ils l'ont fait sans respecter les règles du commerce international.
Mais bien sûr, dicté par les États-Unis.
En empêchant, par exemple, les entreprises européennes de faire du business de façon équitable.
Les panneaux solaires sont un bon exemple.
Il y a quelque chose qui ne marchait plus. Et c'est la raison pour laquelle, quand le président a dit ce soir, il y a eu les 60 ans, on est dans une ère nouvelle, c'est qu'on veut abandonner les travers du passé, et l'Europe, dans la nouvelle période, ce n'est pas l'Europe d'hier, c'est une Europe qui veut se faire respecter. Et ce matin, ce qui a marqué, je pense, tout le monde, c'est la fermeté d'Ursula von der Leyen, qui a parlé de commerce déloyal.
Alors, justement,
c'est d'Emmanuel Macron qui a parlé.
Ils ont joué leur good cop, bad cop, quoi.
C'était... Oui, mais c'est totalement nouveau. On ne disait pas ça aussi, franchement, à la Chine.
De mondialisation.
La mondialisation à l'américaine n'est peut-être pas la bonne, mais à la chinoise non plus.
Je suis d'accord.
Justement, parce qu'il a été
question. Laissez parler Julie.
Ah, merci Roselyne. Heureusement que vous êtes là, sur ce plateau très masculin ce soir.
Ah oui, c'est vrai.
Désolé.
On parle.
Oui, mais quelle femme.
Personne n'est parfait.
Allez, non, parce que vous parliez de l'aspect commercial qui est au cœur des discussions aujourd'hui. Edgar Becquet est avec nous. Effectivement, la relation, on va voir ce qu'ils ont obtenu, mais la relation entre la Chine et la France, elle est très déséquilibrée.
Oui, Julie, tout à fait. Déjà, quelques chiffres pour bien comprendre au niveau de la balance commerciale entre la France et la Chine, c'est-à-dire la différence entre les exportations et les importations. Eh bien, cette balance se creuse en faveur de la Chine. En 2023, notre pays a importé de Chine des biens et des services pour un montant de 71 milliards d'euros. Et la France a, elle, exporté vers la Chine pour seulement 25 milliards d'euros. Il y a donc un déficit commercial d'environ 46 milliards d'euros. Un rapport de force donc favorable à la Chine, notamment vis-à-vis de la dépendance française à certains produits. Plusieurs secteurs sont concernés, les médicaments, les équipements automobiles, l'électronique et les batteries électriques. Pour ce dernier secteur, la France a importé de Chine en 2023 pour plus de 128 millions d'euros de batteries électriques. Une puissance chinoise donc, et on le voit notamment avec le PIB. En 1964, vous le voyez, le PIB de la France était 6 fois supérieur à celui de la Chine. Et aujourd'hui, en 2023, le PIB de la Chine est 6 fois supérieur à celui de la France.
Malgré tout, Edgar, il y a certains secteurs qui résistent quand même à la puissance de la Chine.
Oui, on peut notamment citer les secteurs de l'aéronautique, du luxe et du cosmétique. Les exportations de produits de luxe, par exemple, ont plus que doublé en 2022 par rapport à 2019. Et puis la Chine est d'ailleurs le premier pays d'export de la cosmétique française. Et puis la France tente aussi de rattraper son retard et de limiter sa dépendance à certains produits. Notre pays a entrepris une politique de relocalisation et de réindustrialisation. Je vous parlais il y a quelques instants de batteries électriques. L'an dernier, la première usine de production de batteries pour les voitures électriques a été inaugurée chez nous, en France, dans le département du Pas-de-Calais.
Merci beaucoup, Edgar. Malgré ça, une relation largement déséquilibrée, que cherche à faire la France aujourd'hui ?
J'ai envie de dire encore heureux que la relation est déséquilibrée entre un pays de 70 millions d'habitants et 1,3 milliard de l'autre côté.
C'est vrai.
Ce serait.
Nous sommes des Gaulois quand même.
Ce serait incroyable.
Et réfractaires en plus. Donc.
C'est quand même la deuxième puissance économique mondiale. Heureusement, sinon, ce serait très triste pour les Chinois en fait. Ça voudrait dire qu'ils seraient sous le seuil de pauvreté, tous. Donc heureusement. La question, je pense, qu'il faut aussi voir, c'est pourquoi la Chine essaye de séduire l'Europe aujourd'hui. La Chine essaie de séduire l'Europe parce qu'elle a un problème interne, économique interne. La Chine va mal économiquement, ça ne va pas bien. Il y a un taux de chômage chez les jeunes qui est extraordinaire. Il y a une crise de l'immobilier qui pourrait emporter tout le système économique chinois. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que si le système économique chinois répondait aux mêmes règles que le système économique américain ou occidental ou européen, on aurait déjà eu une crise des subprimes x10. Ce qui se passe là-bas est extrêmement grave. Donc, il faut bien avoir en tête que là, ce qu'ils sont en train de faire, c'est relancer leur production. Ils inondent sidérurgie. Ils produisent quasiment 50% de la sidérurgie mondiale en ce moment. parce qu'ils sont à des prix imbattables. Les voitures, c'est pareil. Il doit y avoir, je sais plus combien de millions de voitures chinoises qui dorment dans les ports de Rotterdam. Et c'est voilà, parce qu'ils ont besoin de vendre à quel que soit le prix. Mais combien de temps ils peuvent tenir avec cette logique-là? C'est pas du tout sûr qu'ils soient capables de tenir très longtemps, parce que ça leur coûte énormément d'argent.
Et c'est pour ça qu'il y a une remise en question de la mondialisation. Mais c'est vrai que oui, le consensus social, puisque c'est quand même important ce qui se passe en Chine, le consensus social chinois, depuis maintenant des dizaines d'années, c'était, en gros, année après année, vous allez gagner en pouvoir d'achat, vous allez gagner en confort, vous
terminé,
allez pouvoir vivre dans des villes. Et le problème, c'est que ça, oui, c'est terminé. Et c'était à ce prix-là que le Parti communiste chinois pouvait dire, bah, on est un parti unique, tout est autoritaire, vous n'avez pas de liberté, mais vous allez avoir une maison, potentiellement, avec une piscine,
oui, c'est
etc.
Vrai. Non, c'est vrai.
Et le problème, c'est que ça s'est arrêté. Donc la question qui se pose, que se pose le Parti communiste chinois, c'est bon bah sur quoi on va baser ce consensus social. Et donc il y a cette proposition de continuer en fait la production et de continuer à exporter massivement, mais ça, comme ça a été très bien dit, ça a ses limites. L'autre proposition, c'est de dire on va reformer, on va reconstruire le monde à notre image, et c'est nous qui allons en être
là,
les chefs.
Mais CQFD, on a un moyen de pression sur la Chine. Donc c'est pour ça que ce voyage, ce déplacement du président chinois peut avoir un certain nombre d'effets, parce que le rapport de force n'est pas tout d'un côté.
Ulysse Gosset, qu'est-ce qu'elle cherche à faire la France?
D'abord, ne pas être seule dans la négociation avec la Chine, dans le dialogue avec Pékin. Aujourd'hui, il y avait la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Bruxelles et la France ont un combat commun en Chine pour obtenir une gestion équitable des affaires, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, après tout, l'Europe, c'est 500 millions de consommateurs, c'est quand même la première économie mondiale. Premier marché mondial. Il y a les États-Unis, la Chine et il y a l'Europe. Est-ce que l'Europe peut être une Europe puissance, pas simplement sur le plan économique, mais également sur le plan militaire, et se faire respecter par les Chinois? Donc, maintenir un dialogue commun européano-chinois. Deuxièmement, qu'est-ce qu'elle peut obtenir, qu'est-ce qu'elle cherche à obtenir dans ce dialogue? C'est par exemple l'Ukraine, encore une fois. Qui peut parler à Poutine aujourd'hui et être entendu? Il y a la Chine. Il y a la Chine, parce que la Chine, enfin, Poutine est devenu tellement dépendant. Il livre son pétrole, d'ailleurs, à bas prix à la Chine. Il a besoin de l'aide de la Chine au niveau international. Donc, est-ce qu'on peut obtenir que la Chine fasse jouer ses leviers vis-à-vis de Poutine?
Vous disiez deux éléments obtenus, donc ne plus vendre d'armes ou ne pas vendre d'armes à la
S'engager
Russie.
S'engager à ne plus le faire. On verra s'il respecte.
On verra s'il respecte. Et une trêve pendant les JO.
Oui, c'est un symbole minimal, mais c'est quand même très important. La Chine répète qu'elle ne veut pas la guerre et qu'elle veut la paix. Mais elle n'a jamais condamné l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Et donc, il faut, emmener la Chine sur une voie, effectivement, qui nous amènerait à une négociation. Ça, c'est un objectif. Et puis, il y a d'autres aspects quand même très importants. Ce soir, figurez-vous qu'il y a eu un accord sur l'intelligence artificielle. Vous imaginez, on va travailler avec la Chine sur l'intelligence artificielle. Pourquoi? Parce que c'est devenu quelque chose d'universel et il n'y a pas de règles, il n'y a pas de charte. Dans le cadre des Nations Unies, il n'y a pas d'accord. Donc l'idée, c'est d'amener la Chine, grande puissance, et qui a des milliers, des dizaines de milliers de chercheurs qui travaillent sur l'intelligence artificielle, les États-Unis qui font la même chose et qui ont des milliards de dollars de budget et des milliers de chercheurs, et l'Europe qui a une grande connaissance et des cerveaux qui sont utiles aux États-Unis comme en Chine et comme en France, qui pourraient permettre, sur ce point précis, de préparer l'avenir intelligemment.
Voilà ce que je pouvais dire sur la visite qui se poursuit demain. Je suis désolée Charles, on va avancer. Merci beaucoup Thomas Lafarge. Merci à vous Ulysse Gosset.